Face aux fluctuations des cours des matières premières agricoles qu'on vient de rappeler, nombreux sont les agriculteurs à s'engager aujourd'hui sur la voie de la diversification pour stabiliser leurs revenus. L'innovation et l'esprit d'initiative sont alors des atouts majeurs pour réussir, comme en témoigne le succès de l'entreprise développée par Benoît Lévesque, qui recevait en 2009 le prix des jeunes agriculteurs de l'Aube.
Benoît va fêter ses 30 ans cette année. Cet agriculteur de Villeneuve-au-Chemin a été récompensé pour sa diversification dans la bioénergie. Avec deux partenaires, des subventions de la région et de l'ADEME, 110 000 euros ont été investis afin de produire des plaquettes de bois.
On achète du bois dans les scieries, on le pose dans le broyeur, on fait des plaquettes et on vend les plaquettes. Ou ça nous est arrivé aussi d'aller chercher des branches dans les communes, les broyer et vendre aussi les plaquettes. Mais on peut faire aussi de la prestation de service. J'ai été en faire cette année au niveau d'une commune. Ils avaient besoin de faire des plaquettes de bois. J'y suis allé, j'ai broyé et je suis reparti. Donc c'est juste une prestation matérielle et main-d'œuvre, quoi.
Chaufferie d'école à Chaours, livraison à Sens et Joigny, la société BEOA, fondée en 2008, s'adresse également aux particuliers. Actuellement, Benoît et ses partenaires continuent d'aménager une plateforme de stockage. Cette activité complémentaire les occupe 30 à 80 jours par an pour l'instant.
L'avantage de la diversification bois, donc, c'est de travailler quand on n'a pas énormément de travail dans les champs à faire. Dans les années à venir, deux contrats suffisent pour développer le marché et passer peut-être de 5, 10 à 30% de revenus supplémentaires.
Quelle forme de diversification observe-t-on au sein des exploitations agricoles ? Sont-elles toutes couronnées de succès ?
C'est une vieille question que cette question de la diversification. On a l'impression qu'elle se répand aujourd'hui, mais depuis très longtemps, depuis des décennies, nombre d'agriculteurs cherchent à diversifier leurs revenus pour plein de raisons, hein, pour essayer de faire face à des situations conjoncturelles difficiles, à des crises, hein, qu'on a évoquées tout à l'heure, mais également aujourd'hui pour d'autres raisons. Et notamment dans des secteurs et dans des régions où la pluriactivité, la diversification n'était pas légion. C'est le cas notamment dans le cas qu'on vient d'entendre. Dans des régions comme l'Aube, dans Champagne-Ardenne, la diversification était plutôt limitée, ou elle se limitait du moins à certains secteurs d'activité, avec de la vente directe dans certains élevages laitiers, etc. Or, on voit aujourd'hui qu'elle se développe dans le secteur céréalier notamment, à travers notamment la mise en place d'activités de prestations de travail. Bon nombre d'agriculteurs aujourd'hui font du travail à façon, sont aussi experts, sont parfois même enseignants double actifs. Ils diversifient à la fois leurs revenus et puis le travail a évolué. Ce travail est de plus en plus simplifié, même en termes de technique. Donc ça libère du temps, donc ça génère aussi non seulement la possibilité de mener des activités pour faire face à une chute du revenu, mais aussi on peut choisir la diversification par choix. Donc dire qu'elle est couronnée ou non de succès, c'est très difficile d'y répondre, parce que ça peut répondre avant tout, non pas à un succès économique, mais à un choix de vie. La volonté de faire autre chose. Vous comprenez ? Je pense que c'est aussi important à souligner et à avoir à l'esprit. Ça peut être aussi un choix, et pas forcément, ça ne renvoie pas forcément, pardon, à une situation à laquelle on est acculé. Et puis, je vais rajouter juste un élément, cette diversification, ne l'oublions pas, est souvent le fait des femmes d'exploitants agricoles qui ont souhaité trouver leur place sur l'exploitation. C'est souvent elles qui ont promu la diversification, qui ont justement permis d'aider leur mari sur l'exploitation quand ça allait mal. Ça, je pense que c'est important de le souligner, et c'est important que le sociologue souligne ce genre de choses.
Une question de Nicolas de Durzy. Quels sont les effets de l'urbanisation des territoires sur le monde agricole ?
Une pression foncière beaucoup plus grande, mais attention, je voudrais quand même la relativiser, cette urbanisation. En moyenne, chaque année, vous avez 1 million d'hectares qui se libèrent. Le marché foncier, c'est 1 million d'hectares. Sur ce million d'hectares, vous avez à peu près 500 000 hectares qui partent à l'installation. 400 000 à la concentration des activités. 400 000 hectares dédiés à l'agrandissement. Bon. Et puis 100 000 qui partent pour l'urbanisation. Donc, oui, vous avez de plus en plus de terres qui partent à l'urbanisation en fonction des contextes. Mais la pression foncière, elle est souvent le fait de la concentration des activités agricoles. Donc, je relativiserai ce mouvement que vous qualifiez d'urbanisation sans en nier les effets, puisque l'un des effets, c'est que cette activité agricole est de plus en plus controversée, puisque de plus en plus d'habitants des espaces ruraux, je dirais des mondes ruraux, choisissent ces mondes ruraux pour des raisons résidentielles, pour leur capacité à accueillir, et non pour des simples fonctions de production. D'où des conflits d'usage entre des gens qui reviennent à la campagne pour leur retraite ou leurs vacances, et des gens qui veulent exercer encore leur activité. D'où des conflits, des controverses qu'il convient de déjouer.
Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous entendez par libération d'un million d'hectares chaque année ?
Chaque année, suite à des départs à la retraite, à des ventes, vous avez un million d'hectares qui repartent sur le marché, liés à des successions, des rachats, etc.
D'accord.
C'est, si vous voulez, le volant de terre disponible chaque année.
Une question formulée par Pierre de Durzy. Quelles sont les conséquences du recul des terres agricoles cultivées ?
La difficulté d'accès aux fonciers pour les plus jeunes, qui ont de plus en plus de mal à trouver des terres, parce que ces terres se raréfient, parce que celui qui vient à la retraite dans son petit village d'origine surenchérit très souvent le prix de la terre. Lui, il a du capital. Or, le jeune qui est du pays, parfois, n'a pas forcément le capital, d'autant plus qu'il entre dans la vie active. Donc c'est difficile. Et conséquence, eh bien, je l'ai dit tout à l'heure aussi, hein, de ce recul des terres agricoles, une emprise plus grande de la ville aussi sur la campagne, une interpénétration des mondes ruraux et urbains de plus en plus grande. Voilà, donc difficulté d'accès au foncier pour les jeunes, et puis renchérissement aussi, c'est aussi une cause et une conséquence du foncier agricole.
Une question de Luigi de Durzy. Est-ce qu'une redistribution des terres permettrait de ralentir l'effacement du monde agricole ?
Cette question de la redistribution des terres est également une vieille question qui a traversé le monde des organisations professionnelles. Il faut savoir qu'en 1960, ont été mises en place, suite aux lois d'orientation agricole, ce qu'on appelle les SAFER, les sociétés d'aménagement foncier d'établissement rural, qui, dès les années 60, ont été mises en place, sous l'impulsion des jeunes agriculteurs, hein, et la mise en place a été le fruit d'une rencontre entre les équipes de Michel Debré, alors Premier ministre, d'Edgar Pisani, ministre de l'Agriculture, et puis les jeunes agriculteurs de l'époque, parce que les jeunes agriculteurs, dès cette époque-là, se rendaient compte qu'il était difficile d'accéder aux fonciers. Bon, et ces affaires ont été mises en place pour, à travers la mise en place d'un droit de préemption, ont été mises en place pour faciliter l'accès aux fonciers en priorité pour les jeunes agriculteurs. Droit de préemption, c'est un droit qui permet à ces établissements publics d'acquérir de la terre et de la redonner en priorité à un jeune qui souhaite s'installer. Donc ça, c'est une vieille question et des outils ont été mis en place. Malgré tout, malgré ces outils, au XXIe siècle, on se rend compte que c'est difficile de faire accéder aux fonciers parce que les terres sont très très chères.
Alors, une question formulée par ma camarade ici présente à mes côtés, donc une question de Elisa de Jersey. Peut-on envisager de favoriser davantage les productions agricoles françaises ?
Oui, ça se fait déjà. Même si je mettrais un bémol, il y a des institutions qui travaillent à ça, hein, France Agrimer, des organisations professionnelles, les interprofessions. Tente d'améliorer l'exportation des produits agroalimentaires, mais on est dans un monde globalisé quand même. Je pense que c'est quand même intéressant, il faut être un peu critique par rapport à ça. Je pense que c'est aussi intéressant de s'enrichir de productions qui viennent d'ailleurs, à la fois sur le plan gastronomique, mais aussi sur le plan culturel. Donc pourquoi ? Alors oui, il faut favoriser la production agricole, mais il faut aussi favoriser les échanges, favoriser aussi ce qui fait un monde globalisé, c'est-à-dire le multiculturalisme en matière de production. Si il s'agit de favoriser la production agricole au détriment de la production des pays du Sud, je vous dis, attention, favoriser la production agricole, oui, mais pas au détriment des pays du Sud, qui, eux, ont aussi besoin de se protéger.
Alors, crise de la vache folle, grippe aviaire, soupçons sur les OGM, la société civile, aujourd'hui, semble de plus en plus méfiante face aux excès d'une certaine agriculture productiviste. En 2008, un documentaire de Jean-Paul Jaud intitulé « Nos enfants nous accuseront » se fait l'écho de ces préoccupations croissantes. Le réalisateur y dénonce une agriculture aux effets particulièrement nuisibles sur la santé des populations et des agriculteurs, tout en mettant en avant des initiatives locales de développement de l'agriculture biologique.
Nous sommes à Barjac, une petite commune française au pied des Cévennes, dont le maire a décidé de faire face, a décidé de réagir en faisant passer la cantine scolaire en bio. Comme ailleurs, la population est confrontée aux angoisses contre la pollution industrielle, aux dangers de la pollution agrochimique. Ici commence un combat contre une logique qui pourrait devenir irréversible, un combat pour que demain nos enfants ne nous accusent pas.
T'as vu, aujourd'hui c'est bio.
Ouais.
C'est meilleur le PM bio.
Ouais.
Meilleur.
Ouais.
Pain bio que le pain normal, parce que le pain normal c'est sec.
Moi j'ai travaillé 10 ans en agriculture chimique et il y a des choses que j'aurais jamais mangées que je faisais, quoi. Ça c'est clair. Bon,
nous... Qu'est-ce que vous voulez dire? On mange pas que les légumes et le fruit, on mange aussi la chimie qui est dedans, c'est ça?
Ouais, c'est sûr que ça y est, ça y reste. Hein, y a...
En viticulture, en agriculture, on utilise plus de 30 000 composants. Donc j'étais voir un neurologue et en 2005, il m'a dit que j'avais un problème. Mais il ne savait pas quoi.
C'est lui qui manipule tout ce qui est produit.
Il en manipule beaucoup.
Il en fait pour les arbres, il en fait pour la vigne, il en fait pour les céréales. Quand il manipule les produits, bon, il les aspire, hein, je veux dire, il inhale. Hein.
Il a des symptômes de...
Saignement de nez, à chaque fois.
Des saignements de nez.
Oui, à chaque fois qu'il traite.
J'affirme haut et fort que l'on peut produire autrement, durablement, des denrées alimentaires de haute qualité sanitaire, en quantité suffisante, avec des performances économiques bien supérieures aux méthodes industrielles, pour peu que l'on cesse de remplacer les paysans sur la terre par des molécules chimiques.
Disent qu'il faut changer les choses. Oh, arbres, citoyens, il est grand temps qu'on propose un monde pour demain.
L'année dernière, c'est vrai qu'il y a un conseiller agricole qui m'a dit... Vous êtes une femme exploitante, faites attention à l'utilisation des produits de traitement. Je lui ai répondu que j'en étais consciente, parce que mon fils avait eu une leucémie, donc je le savais. Malheureusement, l'hôpital de la Timone et les autres sont pleins d'enfants qui ont la maladie de mon fils, et ils s'en sortent pas tous, hein.
Une question de John du lycée Émile Zola. La dangerosité des intrants utilisés ne contribue-t-elle pas à ternir l'image de la profession auprès de l'opinion publique ?
Une petite précision, un intrant c'est quoi ? C'est un élément qui entre dans un cycle de production. Donc ça peut être l'énergie, ça peut être des phytos, ça peut être de l'engrais. Les intrants c'est quand même relativement vaste comme monde, hein. C'est une somme d'éléments. Bon, il y a des intrants utilisés par des agriculteurs qui ne sont pas forcément que dangereux. Là, on parle des pesticides, hein, mais je voulais quand même préciser les choses avant, parce que intrant n'égale pas forcément molécule ou n'égale pas forcément pesticide. Bon, on ne peut que constater que les premières victimes de l'usage malveillant de certains produits sont les agriculteurs. Ce sont eux qui sont les premières victimes quand même. Donc, je pense que cette question-là va bien au-delà de la simple question de l'image. C'est aussi une question là qui est posée d'ordre sanitaire. Je pense que les agriculteurs en ont conscience et ça fait pas mal de temps maintenant, depuis 2 à 3 décennies, qu'ils cherchent justement à être beaucoup plus efficaces dans l'usage des traitements et notamment phytosanitaires. Est-ce à dire qu'un modèle pourra se substituer à un autre? Et là, je pense à la substitution du modèle conventionnel par des modèles bio. Oui et non. Je pense que tous les agriculteurs ne pourront pas passer au bio. Ce qu'il faut avoir peut-être à l'esprit, c'est les outils qui pourraient être mis en place pour faire en sorte que les situations qui ont été décrites tout à l'heure ne puissent plus arriver. C'est pas tant l'usage des produits qui est problématique que la quantité qu'on utilise, qu'on mobilise. Bon, or, il y a des efforts qui ont été faits. Et c'est vrai que s'il y a un trouble des images autour de l'agriculture, que tu soulèves justement, c'est aussi parce qu'on oublie que les agriculteurs ont fait des efforts et ont permis d'être plus efficaces dans les traitements. Et donc les situations qu'on vit aujourd'hui, sur le plan sanitaire, sont le fruit de situations qui étaient quand même assez différentes de celles qu'on vit aujourd'hui, avec une inconscience autour de l'usage de certains produits. Mais certains intrants renvoient à des intrants biologiques, donc c'est pas, l'intrant par définition n'est pas mauvais en soi.
Une question de Lucas du lycée Émile Zola. Dans quelle mesure l'agriculture se tourne-t-elle de plus en plus vers la protection de l'environnement ?
Dans quelle mesure, pour plein de raisons, elle se tourne de plus en plus vers la protection de l'environnement parce que les agriculteurs ont bel et bien conscience que c'est important pour leur santé, on vient de l'évoquer, mais que les consommateurs sont attachés aussi à consommer des produits de qualité. Donc, c'est à la fois, ça renvoie à la fois à une prise de conscience d'ordre sanitaire et puis à une prise de conscience autour de la nécessaire pénétration de certains marchés.
Une question de Lucas du lycée Émile Zola. Peut-on encore avoir confiance dans les promesses de l'agriculture industrielle alors qu'elle a largement contribué à la pollution des nappes phréatiques et des sols ?
Difficile cette question. Je ne sais pas réellement ce qu'est l'agriculture industrielle. Ce que j'observe sur le terrain, et j'étais encore avant-hier sur le terrain dans le bassin parisien, c'est que même cette grande agriculture fait de plus en plus d'efforts pour optimiser quand même les techniques de production. Je pense qu'on peut faire confiance à certains, quand bien même ils ont des exploitations de grande taille, tout autant qu'on peut douter de l'efficacité de certaines agricultures paysannes. Ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on fait forcément du bon boulot ou qu'on ne pollue pas. Moi, j'ai le souvenir dans la ferme de mes grands-parents de voir encore le tas de fumier et le lisier se répandre dans la cour. Et c'était une petite exploitation. Est-ce à dire que mes grands-parents ou arrière-grands-parents faisaient mal leur boulot ? Non, mais ce n'était pas forcément non plus parce que petits, respectueux de l'environnement. À l'inverse, une certaine agriculture peut, en raison des économies d'échelle qu'elle fait, en raison des compétences qu'elle peut mobiliser, peut être aussi plus efficace. Donc, moi, je parlerai plutôt d'agriculture de précision. Et cette agriculture de précision, elle vaut tout autant pour les agricultures de petite taille que de grande taille.
Sur cette question de l'agriculture de précision, est-ce qu'il y a réellement des mesures qui sont mises en œuvre au niveau européen ou au niveau du national ? Des mesures de contrôle, des mesures de...
Cette agriculture de précision, elle est le fait aussi des agriculteurs qui font le choix d'adopter des techniques, du matériel qui permet justement l'optimisation, la précision. Alors ces agriculteurs ne sont pas forcément soutenus, si c'est le sens de votre question. Par contre, ce qui est soutenu, c'est la démarche, qu'on mobilise l'agriculture de précision ou pas. L'idée étant quand même d'aller vers des systèmes, quoi qu'il en soit, plus respectueux de l'environnement, avec de l'agriculture de précision ou pas.